Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé. Je m'ennuyais. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. J'en parle souvent parce que c'est excellent. Les idées mènent le monde. Des longues conversations avec des intellectuels qui ont des choses à dire, qui ont un angle inédit sur certaines situations. Mathieu est avec nous. Salut Mathieu.
Bonjour.
Écoute, bien sûr, faut revenir sur le manque total de leadership de Justin Trudeau. Toi, Mathieu, est-ce que toi, t'es un gars de parole, t'es un gars qui aime discuter, t'es un gars qui aime... Bon, est-ce que, j'imagine, t'es pas pour l'envoi là, de l'armée puis de la police tout de suite, là?
Non, ben là, c'est ça, il y a toute une série d'éléments dans cette affaire-là. C'est-à-dire, le premier, c'est la solution policière, disons ça comme ça. Elle pouvait être envisagée probablement les premiers jours, c'est-à-dire, il y a des gens qui bloquent la voie ferrée, c'est pas encore devenu un problème national, c'est pas encore devenu un problème pan-canadien. Bon, ben alors là, il y a des gens qui bloquent la voie ferrée, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient nationalistes québécois, qu'ils soient militants, j'en sais rien, moi, LGBT, qu'ils soient écolos, qu'ils soient... Qu'importe, vous bloquez pas la voie ferrée. Plusieurs journées plus tard, eh bien là, on sait que s'il y a la solution et la solution des premiers jours, si on l'appliquait aujourd'hui, ça crée 20 crises d'Oka à la grandeur du Canada. Ça me semble assez évident dans les circonstances. Donc là, on est dans cette espèce de situation où le gouvernement, par son incurie des premiers jours, par son impuissance des premiers jours, a laissé développer une crise qui est de moins en moins gérable, de moins en moins maîtrisable. Autre élément qui s'ajoute à ça, le premier ministre, lorsqu'il prend la parole, tu sais, il revient de sa tournée où il cherche à gagner un siège pour devenir un jour prix Nobel, il fait cette espèce de tournée, il revient, et qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on va appeler autrefois des paroles verbales, hein, c'est-à-dire une espèce de déclaration pontifiante, sermonneuse. Il dit rien. De l'autre côté, les conservateurs décident, parce que c'est l'avantage de l'opposition, disent nous on est des durs de durs, on est des vrais policiers. Et là, mieux que tout, Justin Trudeau se dit vous, je vous parle plus. Donc Justin Trudeau est prêt à parler avec ceux qui bloquent la voie ferroviaire, les chemins de fer, mais il n'accepte plus de parler à son opposition qui défend une position qui, qu'on l'accepte ou non, est quand même une position qui est théoriquement tenable, c'est-à-dire la défense de la légalité. Donc on est dans une espèce d'immense foutoir, et à travers tout cela, ce qui serait révèle, me semble-t-il, c'est le manque de leadership effrayant de Justin Trudeau. Cet homme-là, je l'ai souvent dit, c'est comme la reine d'Angleterre. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il est bon pour parader, il est bon pour faire des discours pontifiants, mais ses discours ne sont rien d'autre que le masque de son impuissance.
Exactement, parce que ce qui arrive, là, toi et moi, ça me surprend pas du tout. Là. Ça me surprend pas. C'est ça, Justin, selon moi.
Oui, ben, en fait, il n'a jamais été que cela, c'est ça le problème. On cherche la crise où Justin Trudeau aurait fait preuve de grandeur politique. On cherche le moment, on nous dit, oui, c'est un prof de théâtre, il n'était pas fait de devenir premier ministre. Non, moi je crois qu'en démocratie, il peut y avoir des transfigurations. Occuper la fonction, ça peut transformer un homme. Prenez l'exemple de François Legault. Ça lui a pris du temps à sortir de son rôle de comptable pugnace, disons ça comme ça, et là... Il est devenu premier ministre, il est devenu chef national. Quelque chose s'est opéré, une transfiguration. Justin Trudeau est premier ministre depuis quelques années déjà, depuis 2015, et il n'est jamais devenu, il est devenu éternellement, depuis toujours, cette espèce de gamin égaré en politique, le fils de son père qui n'existe que par son nom de famille, sur le fond des choses, qui tire sa légitimité de sa filiation. Alors, de ce point de vue, on cherche encore le moment où il est devenu premier ministre. Il ne l'est pas devenu. Puis qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, le Canada est gouverné dans des circonstances à la fois par les structures de pouvoir du Parti libéral, par les sites de hautes fonctions publiques, par la bourgeoisie de Toronto, les puissances pétrolières de l'Ouest, et à travers ça, le premier ministre absent qui sert simplement à parader.
Écoute, tu parlais de son père. Tu sais, son père, là, on se souvient de son fameux « Just Watch Me ». Il niaisait pas son père. Là. Il a niaisé avec les souverainistes québécois. Là, à un moment donné, il a mis ses culottes et tout ça, qu'on soit pour ou contre. Mais tu sais, il a just watch me en disant, moi, je jaserai pas. Moi, agir. Mais justement, Justin n'est pas le fils de son père.
Non, mais ça, alors, comme je viens de dire, ça, c'est ça le problème, sa seule qualité. Mais ça sent un qui était le père. Mais cela dit, moi, je crois, et ça, c'est une conviction. J'ai rien pour l'étayer, sinon que des intuitions et quelques analyses. Si c'était des nationalistes québécois qui causaient des problèmes comme ceux-là, je suis persuadé que Justin Trudeau se découvrirait soudainement courage et force pour en finir avec eux. Il userait de la force nécessaire pour en finir avec ces nationalistes qui troublent l'ordre du pays. Parce que, il faut le dire, dans son esprit. Et c'est là la grande contradiction de Justin Trudeau. Il s'est fait élire avec ses discours sur la réconciliation, sur des premiers peuples, sur des premières nations. On comprend l'intention généreuse. Mais de l'autre côté, le Canada est un État pétrolier. C'est aussi un État de droit, accessoirement, où normalement tout le monde devrait respecter la loi. Et là, il est pris dans ses contradictions. Et c'est l'espèce de, vous savez, c'est l'espèce de progressisme qui se fait toujours déborder sur sa gauche. C'est-à-dire, le progressiste se croit immaculé, dénonce tout ce qui n'est pas lui, comme la droite, le conservatisme, l'intolérance et tout ça. Et un jour, il est débordé sur sa gauche et il se découvre dans le rôle du conservateur, de l'institution, du gardien de l'ordre. Et là, il déteste se voir dans ce rôle inattendu parce qu'il n'a plus la conscience immaculée, parce qu'il n'est plus la présence virginale et nobilisable dans notre vie publique. Et là, Justin Trudeau doit donc agir en premier ministre, c'est-à-dire prendre des décisions dures, des décisions sévères, des décisions difficiles.
Mais c'est-tu, Mathieu, c'est-tu ça qui me fait penser? La mère de Caillou. Tu sais, Caillou, il arrive, là, il rouvre un sac de farine, il te sac ça dans le salon, ben reine, puis tout ça, puis elle est là, « Oh, Caillou! Mon petit coquin! »
C'est la figure de l'autorité faible, c'est la figure de la dissolution d'autorité, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste, d'un côté, comme je le dis, à faire des grands discours pontifiants, et mieux encore, les seuls avec qui il a été ferme en ce moment, je l'ai dit tantôt, parce que ça me semble important, les seuls avec qui Justin Trudeau a été ferme dans ses discours jusqu'à présent, ce sont les conservateurs. L'opposition officielle. On peut être en désaccord profond avec la position des conservateurs. Ils représentent néanmoins, qu'on ne se trompe pas, un segment très important de l'opinion publique. Mais que fait-il dans les circonstances? Il est faible avec ceux qui sont dans la logique du blocage, du blocus, et il est très, très dur envers son opposition officielle au point de vouloir l'exclure de la conversation démocratique. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est de la comédie. Justin Trudeau, on l'a souvent su, on l'a toujours dit en fait, n'était pas fait pour le rôle qu'il occupe en ce moment. Et là, les circonstances viennent donner raison à tous ceux qui étaient sceptiques.
Écoute, au Canada, il y a deux niveaux de pouvoir. Il y a la reine d'Angleterre, qui est le chef d'État. Hein. Les gens pensent que le chef d'État, c'est le premier ministre. Absolument pas, c'est la reine d'Angleterre. Mais il y a le Parlement. Les décisions de tout, les décisions du Canada sont prises par le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui représente le peuple. C'est une institution démocratique. La même chose pour les communautés autochtones. Tu as les chefs héréditaires qui règnent par le droit du sang, qui ont été comme nommés, mais je veux dire, les décisions, ça devrait être prises par le conseil de bande, qui eux autres, c'est une institution démocratique, qui sont élus. Et le conseil de bande, dans cette situation-là, pour la bande de Wet'suwet'en, il était pour. Il était pour le projet de gazoduc.
Et là, c'est là qu'on tombe sur la question très très épineuse de la gouvernance autochtone.
Ben oui.
C'est-à-dire que les conseils de bande, c'est pas la structure, soyons honnêtes, élus, c'est pas la structure, je dirais, la plus transparente démocratiquement de l'histoire de notre civilisation. Disons ça comme ça, poliment. il y aurait de bonnes questions à se poser sur les... De l'autre côté, l'idée d'un leadership et d'un pouvoir héréditaire, eh bien, mais il y a quelque chose qui heurte mentalement l'idée démocratique là-dedans.
Comme
une forme de légitimité concurrente et tout ça. Donc, et là, et surtout, le gouvernement ne sait pas comment réagir devant ça. Parce que négocier avec les populations amérindiennes, négocier avec les différents groupes qui les composent, on ne sait jamais avec qui exactement on doit négocier. On ne sait jamais quelle frange plus traditionnaliste, plus radicale, va décider de faire sécession, de faire dissidence, de rompre, de s'opposer au gouvernement. Et puisqu'on est dans une époque, il faut bien le dire, là, moi, je ne conteste pas un instant l'idée que la situation des Amérindiens au Canada, c'est une forme de tiers-monde intérieur. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une situation scandaleuse. Il n'en demeure pas moins que sur le plan symbolique, sur le plan moral, sur le plan politique, il y a une forme de complaisance envers tous les discours qui proviennent des milieux amérindiens, quelquefois même les plus radicaux. Exemple, ce discours absolument insensé sur les territoires non cédés, qu'on nous répète sans arrêt.
Oui.
Comme c'est fondamentalement, après 4 siècles en Amérique et presque plus que ça, les Européens, comme on les appelait autrefois, étaient illégitimes. Ils devaient retourner chez eux. Vous êtes illégitimes ici. Vous devez vous incliner, tout ça. Non, un instant, là, il y a quand même des limites à réécrire l'histoire comme ça. À ce compte-là, est-ce qu'il faut renvoyer les Romains de la Gaule et ainsi de suite? À un moment donné, le réel a ses droits. Donc, il y a une légitimité indéniable des revendications autochtones aujourd'hui, mais on est prêt, au nom de la légitimité de ces revendications-là, on est prêt à tout accepter, même des discours très radicaux. Parmi ceux-là, justement, l'idée du territoire non cédé. Parmi ceux-là, cette idée que la moindre revendication qui vient de ces milieux, on doit nécessairement s'incliner, même devant les plus radicaux, parce que sans ça, on serait un méchant néocolonialiste blanc patriarcal. sale ou quelque chose comme ça, on peut mélanger ces termes-là en faisant shuffle. Finalement, on trouve toujours une insulte qui traîne à gauche. Donc devant tout cela, eh bien, on est un peu désarmé moralement parce qu'on ne croit pas à notre propre légitimité d'agir ou en fonction de l'intérêt général canadien dans ce cas-là. Et moi, ce que je note là-dedans, c'est que c'est facile de tenir des discours complaisants. Hein, c'est-à-dire, on se donne la bonne position, on se met au-dessus de la mêlée, on se fait très gentil. Je trouve derrière ça, simplement, j'y reviens, c'est l'impuissance. On devrait être capable de reconnaître la légitimité des nations amérindiennes, reconnaître la légitimité de certaines de leurs revendications, dire qu'elles ne sont pas toutes légitimes, qu'on est capable de discuter sans avoir à s'incliner au nom d'un sentiment de mauvaise conscience ou de pénitence. Sans ça, ça nous condamne à l'inaction.
Tout à fait. Je te donne un avant-goût de ma chronique de demain, Mathieu. On aime les Autochtones, mais il ne faut pas qu'ils se développent économiquement. Il ne faut pas qu'ils participent à des projets, des méga-projets, et qu'ils peuvent avoir des retombées économiques. On les aime pauvres. On les aime dépendants. On les aime quasiment qu'ils vivent dans des tipis. Tu sais, il y a un côté aussi, là, tu sais, quand on voyage à l'étranger, on va en Amérique du Sud, là, on veut pas voir des Mexicains, des Sud-Américains qui se promènent en Ford puis qui mangent au McDo comme nous autres. Non, on veut les voir quasiment vivant dans des huttes parce que ça nous donne un sentiment d'authenticité, tu sais. Il y a un peu ça, là. Parce qu'il y a 20 conseils de banque qui sont pour les gazoducs, puis toute la petite gang de McGill qui sont sortis pour bloquer la rue Sherbrooke, eux autres, ils appuient ceux qui sont contre le développement économique parce que ça, c'est les bons Indiens.
Je suis toujours amusé. Je suis toujours très amusé quand des gens de McGill nous disent de dénoncer des institutions coloniales. OK, faut-il abolir leur propre université? Qu'ils nous le disent. Alors, franchement, ça m'intéresserait de savoir. Mais McGill, français, on a déjà parlé de ça. Mais non, cela dit, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Comme quoi, on a une forme de discours par rapport aux Amérindiens, aux Autochtones, où on leur dit, en gros, on les aime à la manière des témoins de la civilisation non-occidentale, du monde pré-occidental en Amérique. Les témoins de l'authenticité, les témoins d'un autre rapport à la nature. Et on les veut dans ce rôle. Je pense pas que les gens aiment les voir pauvres, mais à tout le moins, ils aiment les voir sous le signe de l'altérité radicale. Et me semble-t-il que tout le défi pour les nations autochtones, c'est de conjuguer la fidélité à leur tradition, leur identité, c'est très bien, et l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler, pas l'entrée, parce que plusieurs d'entre elles, l'entrée dans la modernité a lieu, mais je dirais se réconcilier la fidélité aux traditions, aux identités, avec les codes du monde moderne, les codes du développement dans le monde moderne, l'État a un rôle à jouer là-dedans pour leur donner les infrastructures nécessaires, pour leur donner les moyens de se développer, mais il y a aussi cette idée que de notre côté, on doit cesser d'avoir une forme de discours complaisant pour une forme de misère qui est vue comme une forme supérieure d'authenticité. Ça, moi, ça me semble évident, mais c'est la question la plus épineuse qui soit, parce qu'on touche à cette question-là, puis là, on va tomber sur un type de la Gazette dont le nom m'échappe, qui traitait ceux qui remettaient en question la légitimité des barrages de suprémacistes blancs. Bon, suprémacistes
bon,
blancs,
ça y est.
Non, mais ça, c'est formidable, ça. C'est insulte-là qui est pour moi la marque des incultes hargneux. On l'utilise régulièrement dans ce débat pour faire le procès de toute défense de l'état de droit dans sa forme la plus élémentaire. Mais encore une fois, il faut enlever ce brouillard idéologique pour regarder cette question avec le plus de lucidité possible. C'est pas facile, mais c'est pourtant nécessaire.
Mais merci beaucoup de lutter justement contre le brouillard et de défendre la raison dans un monde qui en manque de plus en plus. Merci Mathieu.
Merci infiniment. Au revoir.
Mathieu Bock-Côté.